La société est passée par 5 stades, mode de production du communisme primitif, mode de production antique, c'est-à-dire esclavagiste, mode de production féodale caractérisé par le servage, mode de production capitaliste et mode de production socialiste. La théorie des 5 stades. Évidemment, on trouve ici dans ce texte le mot progressif. D'où l'idée qu'il y a une espèce de progrès nécessaire, que la société engendre presque fatalement. Elle est presque fatalement une marche, l'histoire est une marche qui nous mène à travers ces 5 stades vers le communisme. Sans qu'il y ait d'autres possibilités, sans qu'il y ait eu d'autres stades, etc. Or, il y a malheureusement des trous dans cette théorie. Il y a d'abord un mode de production qui n'est pas prévu dans les 5 stades, c'est le mode de production asiatique. Pourtant, Marx en a parlé, il en parle ici et il en parle beaucoup dans la critique des fondements de l'économie politique, Brunn-Dresser. Le mode de production asiatique est très curieux parce qu'il n'est pas le mode de production féodal, il n'est pas non plus tout à fait le mode de production esclavagiste, il ressemble à rien de connu, ou peut-être il ressemble trop à quelque chose de connu, parce qu'il est arrivé une singulière aventure au mode de production asiatique. On l'a supprimé de la nomenclature des modes de production en 1931 à un congrès de spécialistes soviétiques, deux congrès, même un à Tiflis et un à Leningrad. On a dit non, c'est erroné, il n'y a pas de mode de production asiatique. Et on a dit la même chose en Chine d'ailleurs. Pékin. Il n'y a pas de mode de production asiatique. C'est assez curieux. Parce que le mode de production asiatique, c'est tout de même quelque chose qui a existé pendant des siècles et des siècles sur de très vastes étendues. Il a existé en Égypte, il a existé en Chine, il a existé en Mésopotamie, il a existé en Corée, il a existé au Sud-Vietnam, au Vietnam. Et il est caractérisé par ceci. Il y a une propriété, ou plutôt pas de propriété privée à la base, il y a une espèce de propriété communautaire villageoise, avec un échange entre paysans et artisans, mais la propriété de l'ensemble du territoire, de l'ensemble du sol, est une propriété étatique. C'est l'État, représenté par, en général par un roi, un empereur, qui est le propriétaire. Alors la propriété, elle est étatique, elle est personnalisée tout de même, puisqu'elle est consacrée dans la personne du souverain. Les paysans, ce sont en général des civilisations paysannes, sont des usufruitiers de cette propriété, mais ils reversent une énorme part du surplus agricole au souverain et à toute la bureaucratie, parce qu'il y a une énorme bureaucratie, à toute la bureaucratie qui est autour du souverain. Et ce système existe, pas par hasard, dans les pays comme l'Égypte, comme la Chine, etc., dans des pays où il est nécessaire qu'il y ait des travaux d'irrigation ou de soutènement pour empêcher les inondations, etc. Des travaux sur une très grande échelle qui ne peuvent être organisés que centralement, moi ce que je pouvais faire à l'époque. Et dans ces dans ces territoires, on constate justement ce mode de production très particulier, où il y a une propriété étatique, une propriété générale en somme de l'ensemble des ressources du pays attribuées à un souverain, qui est toujours aidé dans son administration, parce qu'il faut une énorme administration, par toute une couche de bureaucrates possédant un savoir administratif et un savoir technique, le mandarinat par exemple en Chine, les scribes en Égypte. On ne va pas m'attarder trop longuement sur ce mode de production, mais il est important, il est intéressant, non seulement parce qu'il a été bizarrement supprimé de la nomenclature par les spécialistes soviétiques et chinois, peut-être ça faisait trop penser à autre chose, mais aussi parce qu'il est une indication selon laquelle la théorie des cinq stades est une théorie tout à fait artificielle. En fait, il n'y a pas une telle rigidité dans la succession des modes de production. Alors, j'ai passé tout un développement extrêmement important sur les superstructures. Il faut quand même que j'en dise quelques mots avant d'en revenir au mode de production. En effet, tout à l'heure, bon, on a parlé de l'idéologie. On n'a pas parlé des institutions. Mais dans les superstructures, Marx appelle les superstructures, c'est-à-dire ce qui s'élève au-dessus de la base économique. La base économique, c'est force productive et rapport de production. Dans ce qui s'élève au-dessus, ne prononce au-dessus que comme une image, bien sûr, parce que dans une société, il n'y a pas d'au-dessus et d'au-dessous. Alors, tout est, c'est un tout, Marx le dit, d'ailleurs, c'est une totalité. C'est un tout. Pas une totalité organique. Totalité qui a une certaine structure. Enfin, c'est un tout, et tout réagit sur le tout. Toutes les parties réagissent à l'intérieur de ce tout, les unes sur les autres. Alors, dans cette totalité qu'est un mode de production, et même plus une formation sociale, formation sociale, c'est, si vous voulez, un terme concret pour désigner une société telle qu'elle est. Mode de production, c'est abstrait. On n'en a jamais vu de mode de production. C'est un découpage analytique de la société pour mieux la comprendre. C'est une grille de lecture. Mais dans une société complexe, comme la cité française par exemple, on trouve le mode de production capitaliste. On trouve encore un peu, on trouvait beaucoup plus il y a quelques années, mais on trouve encore un peu des vestiges de modes de production antérieurs. Le mode de production autarcique. Il n'y en a plus beaucoup en France, de paysans par exemple qui vivent sur eux-mêmes, sans beaucoup d'échanges, ou avec très peu d'échanges avec le reste, la structure sociale. On trouve des vestiges, ne serait-ce qu'idéologiques, de modes de production antérieurs, encore des conceptions qui relèvent du pré-capitalisme, certains sentiments moraux, certains comportements, certains folklores, etc. La formation sociale peut regrouper plusieurs modes de production. En France, évidemment, c'est moins visible. Et d'ailleurs, maintenant, de façon plus générale, dans les pays, disons, de développement industriel, les pays capitalistes avancés, le capitalisme tend à embrasser l'ensemble de la vie économique et de la vie sociale. Mais il y a des pays où on peut trouver, prenons l'Égypte, prenons l'Algérie, etc., on peut trouver la coexistence de modes de production de type pré-capitaliste, d'Asie, étatique ou féodal, et de mode de production capitaliste. Le problème est de savoir, dans un pays, quel est le mode de production dominant. Il est clair que dans l'ensemble, maintenant, des pays avancés, le mode de production dominant est, pour ainsi dire, exclusif, devient le mode de production capitaliste. Alors, dans cette formation sociale, dans ce mode de production, surtout dans cette formation sociale, donc il faut envisager pas seulement les aspects économiques, mais les aspects superstructurels, c'est-à-dire les idées, qu'elles soient morales, juridiques, philosophiques, religieuses, esthétiques. Les institutions, qu'il s'agisse des églises, des partis, de l'État avec l'ensemble de son appareil et de ses ramifications. Or, quel est le rapport de cette superstructure avec la base, avec la structure? Est-ce qu'il s'agit d'une détermination absolue de la superstructure par la structure ou l'infrastructure, comme on voudra? On pourrait le croire à partir de certains textes de Marx. Et c'est une question très importante du point de vue théorique. On pourrait le croire. En fait, il n'en est rien. Il ne s'agit pas d'une détermination absolue. Engels, dans un certain nombre de textes que je vous indique ici, Marx lui-même, d'ailleurs l'avait fait, mais Engels y a insisté, a corrigé ce que pouvait avoir de rigide et de mécanique l'idée d'un déterminisme absolu de la superstructure par l'infrastructure. Dans une lettre à Konrad Schmidt, qu'on n'a pas le temps évidemment d'éplucher ici, dans une lettre à Hans Starkenberg, Franz Mehring et non pas Meckring, Franz Mehring, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas correspondance absolue, que là aussi il y a un développement inégal, qu'il y a des éléments de la superstructure qui se développent beaucoup plus vite que les éléments de l'infrastructure. Marx, par exemple, s'étonne du perfectionnement, enfin de la perfection plutôt, de l'art grec par rapport à la situation sociale et politique de l'époque, économique et politique de l'époque. Engels dit que le droit romain, par exemple, apparaît extrêmement en avance sur la situation économique, puisqu'il fournit même le canon juridique pour tout ce qui concerne la propriété privée, le droit privé de la civilisation moderne. Engels dit que il arrive que des pays jouent les premiers violons en philosophie, comme l'Allemagne par exemple de son époque, alors qu'ils sont très en retard sur les autres pays occidentaux sur le plan économique. Donc il n'y a pas correspondance absolue entre la situation dans le domaine des idées, des institutions même, et le domaine de l'économie. Et puis surtout, il n'y a pas action dans un seul sens. Il y a action de la superstructure sur la structure. Il est évident, ça crève les yeux, que le développement de l'économie n'est pas indépendant de la situation politique, d'une situation politique donnée. On n'a pas le temps d'analyser, ça serait très intéressant, ce qui se passe en ce moment en France, par exemple, sur ce plan. Le rôle de l'État est évident. Il y a une politique économique gouvernementale, mais une politique économique, ça veut bien dire le rôle des institutions sur la base, sur la situation économique. Alors, est-ce qu'il y a autonomie, alors? Ça, c'est une autre thèse. Autonomie des idéologies et des superstructures par rapport aux structures. J'ai discuté hier, pas longtemps, avec un camarade chrétien qui disait, se réclamait d'Althusser, en disant, ben oui, nous sommes althusseriens, nous appuyons sur le fait qu'Althusser dit qu'il y a autonomie de l'idéologie. Je ne sais pas s'il dit exactement ça d'ailleurs. Il dit quand même qu'il y a autonomie, oui, relative. Lui, il y a autonomie totale de l'idéologie par rapport à la structure. Alors vous voyez la conséquence. S'il y a autonomie de l'idéologie par rapport à la structure, il n'y a plus de rapport, évidemment, entre les croyances, les idéologies, la foi, et telle ou telle situation historique. Ça se balade dans l'éternel. Il n'y a plus de rapport avec le monde réel, le monde matériel. Puis il disait aussi, bien, Althusser a dit que dans une société socialiste, il y aura toujours l'idéologie, par conséquent, si on met évidemment les deux choses bout à bout, il n'y a pas de raison que dans les sociétés socialistes, les mêmes idéologies, des idéologies un peu différentes, mais enfin sans rapport avec une base matérielle, une base économique, se développent. C'est très logique comme thèse. Seulement, je ne crois pas que ce soit tout à fait marxiste. Je ne crois pas que ce soit... Parce que si on détache totalement les idéologies et les superstructures dans leur ensemble, de la réalité matérielle, on a une production d'idées, et même une production, et pourquoi pas l'État, qui est indépendante, qui n'est plus reliée à sa base. Alors autant il est mécaniste de prétendre que tout ce qui se fait dans le domaine de la superstructure reflète directement l'infrastructure, ça c'est du mécanisme pur. Toute la théorie du reflet, on vous en parlera quand on parlera de la dialectique. Je n'ai pas voulu aborder, bien que ce soit évidemment artificiel de séparer dialectique et matérialisme historique. La dialectique apparaît tout de même dans les contradictions déjà, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas donc de... ça serait mécanique de dire qu'il y a un reflet immédiat, total de l'infrastructure, de la superstructure, qu'elle reflète directement l'infrastructure. Ça passe par toute une série de médiations. Ce qui se passe dans la philosophie, par exemple, dépend de ce qui se passe dans la philosophie, c'est-à-dire de la philosophie antérieure. Alors c'est la première médiation. La philosophie est une technique. Comme toute technique, elle se relie à son passé. Donc ça dépend de ce qui se passe dans ce qui s'est passé dans la philosophie. Ça dépend de ce qui se passe dans la politique. Ça dépend de ce qui se passe dans les sciences. Peut-être plus étroitement encore que dans la politique, plus directement. Dans la politique, dans les arts, dans la religion, etc. Donc il y a toute une série de médiations qui interviennent pour expliquer ce qui se passe dans les superstructures. Mais il n'y a pas non plus un détachement, une séparation entre les superstructures et l'infrastructure qui aboutissent à l'indépendance totale des superstructures. En tous les cas, c'est un problème à discuter. Mais voilà les thèses en présence. Et ça a des conséquences, bien sûr, sur le plan politique. Donc on considère qu'il y a indépendance totale ou non de la superstructure. Alors, une autre thèse à ce sujet, on y a déjà fait allusion la dernière fois, c'est de prétendre que aujourd'hui, tout se passe dans les superstructures. L'essentiel, en tous les cas, se passe dans les superstructures. Certes, la lutte au niveau des institutions. Alors les institutions, bon, c'est très large. C'est l'école, c'est l'armée, c'est la justice, c'est la famille. Bien entendu, c'est l'État. Que la lutte au niveau des institutions l'emporte est décisive par rapport à la lutte au niveau des rapports de production, Je crois que là aussi, on l'a déjà dit, que là aussi il y a une tendance à la coupure entre ce qui est lié, ce qu'il ne faut pas séparer. Le domaine économique, le domaine de la structure et le domaine de l'infrastructure, de la superstructure. Alors revenons maintenant, si vous voulez, et ce n'est pas d'ailleurs tellement séparé, à des questions qui concernent la succession des modes de production. On a dit tout à l'heure que la théorie des stades était tout à fait mécaniste si elle disait qu'il y a un passage automatique déterminé en quelque sorte du communisme primitif au socialisme. Vu que ça ne correspondait pas, par exemple, à une anomalie, ce qui peut paraître dynamique, comme le mode de production asiatique. Mais il y a bien d'autres problèmes qui se posent. Qu'est-ce qu'il advient avec le mode de production capitaliste? Est-ce qu'on débouche fatalement, en vue d'une détermination en quelque sorte inéluctable, du capitalisme au communisme, ou au socialisme, comme première phase du communisme? Ça, c'est décisif, du point de vue de notre action. Il y a toute une génération qui l'a cru. Plusieurs générations même qui l'ont cru. On ne pouvait pas ne pas déboucher, dans la mesure où on sortait du capitalisme actuel, sur le socialisme. Or, les faits amènent tout de même une certaine interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas eu en URSS, et indiscutablement il y a eu en URSS une révolution prolétarienne, est-ce qu'elle a débouché sur le socialisme? Et qu'est-ce que le socialisme? Ou s'agit-il d'autre chose que le socialisme, tel que Marx l'annonçait? Est-ce que le mode de production capitaliste ne peut pas donner naissance, ne peut pas engendrer d'autres modes de production qui ne sont pas le socialisme? Et alors le problème se pose, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un passage du capitalisme concurrentiel à un capitalisme d'État? Est-ce que finalement le capitalisme d'État n'est pas à l'horizon? De la contradiction entre forces productives actuelles et modes de production actuels et rapports de production actuels, comment apprécier les systèmes sociaux de tout l'Est européen, d'un certain nombre de pays asiatiques ou sud-asiatiques, d'un certain nombre de pays d'Afrique? Est-ce qu'il s'agit de socialisme ou est-ce qu'il s'agit de capitalisme d'État ou encore d'autres choses? Lorsqu'on est sorti de cette espèce d'état de grâce qui faisait croire qu'il n'y avait pas d'autres possibilités qu'une progression allant d'un certain stade à un autre stade, puis à un autre stade encore plus progressif, alors le problème réel se pose, à quel mode de production a-t-on affaire? Et alors pour terminer, je crois que c'est déjà assez long, pour terminer, je voudrais indiquer tout de même un problème qui nous intéresse nous particulièrement en tant que socialiste autogestionnaire. Et il y a une chose qui est surprenante quand on étudie la succession des modes de production, c'est que dans tous les modes de production antérieurs, la classe dominante et la classe qui a eu entre les mains certains moyens de production, les moyens de production essentiels. Il s'agisse de la terre à une certaine époque, qu'il s'agisse à une autre du capital. Est-ce qu'il est possible pour la classe ouvrière de devenir la classe dominante sans avoir réellement entre les mains les moyens de production? Or, il ne s'agit pas de dire elle a les moyens de production par l'intermédiaire de. On tomberait alors dans une mythologie. Par l'intermédiaire de son parti, par l'intermédiaire de son État. Savoir comment elle peut avoir les moyens de production entre les mains, parce que la puissance économique est la base de la puissance politique. Ou alors les choses sont renversées. On dirait que c'est un peu ça le trou que l'on voit dans la théorie du socialisme. Jusqu'à présent, est-ce qu'on pourrait dire, parce qu'on a entre les mains le pouvoir politique, on a en même temps entre les mains le pouvoir réel? Est-ce que la création d'une base économique pour la classe ouvrière, base économique de son pouvoir, n'est pas la condition de son pouvoir politique? Et alors là, nous sommes directement ramenés au problème que nous posons en tant que socialistes autogestionnaires. Est-ce que la condition du socialisme n'est pas le pouvoir de base de la classe ouvrière dans les moyens de production, son pouvoir de décision sur les moyens de production à la base même? Parce que si ça se passe dans les superstructures seulement, on disait, nous ne sommes pas très éloignés des problèmes de structure, dans les structures seulement, est-ce qu'on n'aura pas, à la place d'une domination réelle de la classe ouvrière, une espèce de domination idéologique, mythique de la classe ouvrière, et un régime qui sera autre chose que le passage au socialisme, c'est-à-dire un autre mode de production qu'il faudrait alors, qu'il faudrait consacrer une séance particulière?
Bon, j'ai probablement pas très bien compris un certain nombre de points de ton exposé. Je voudrais que tu reprennes le problème des rapports entre le développement des forces productives et puis le développement de la division du travail, d'une part, et deuxièmement, le problème des rapports entre forces productives et rapports de production. Alors, je précise ce que je veux dire. Tu as dit, c'est tout au moins ce que j'ai noté et compris, le développement des forces productives entraîne une certaine division du travail qui, elle-même, entraîne une certaine forme de propriété. Bon, ça, c'est du Rousseau presque mot pour mot dans le discours sur l'origine et les fondements d'inégalité. Moi, je crois que la grande différence entre Rousseau et Marx, et je ne sais pas si elle a été très bien précisée dans l'exposé, c'est justement que Marx ne croit pas à un développement autonome des forces productives. Le développement des forces productives, il est engendré par un certain type de rapport de production. Bon, ce qui fait qu'il me semble assez erroné de parler d'un développement des forces productives qui serait freiné, par exemple, par un certain état des rapports de production, comme c'est l'expression que tu as employée. Si aujourd'hui il me semble que le développement des forces productives entre en contradiction avec les rapports de production, c'est pas, comme le dit le PC, parce que la machine de production ne fonctionne qu'à, je crois, 60 ou 70% de ses capacités réelles, mais c'est pour des raisons tout à fait différentes, parce que, bon, par exemple, le développement des forces productives entraîne la division de la société en deux classes fondamentales, les salariés et puis les propriétaires des capitaux, avec donc une disparition progressive, comme tu l'as très bien souligné, des secteurs archaïques qui représentent d'autres types de modes de production. C'est aussi parce que le développement des forces productives, c'est le règne de la marchandise qui aboutit à une destruction des liens sociaux. Bon, autrement dit, il faudrait peut-être essayer donc de repréciser le problème des rapports entre rapport de production et puis développement des forces productives.
Ces deux séries de questions. Bon, le mode de production asiatique, je sais qu'il y a énormément de discussions là-dessus. Et effectivement, il y a encore des spécialistes qui nient le mode de production asiatique. Mais là, alors je te demanderai quand même, là je ne veux pas faire argument d'autorité, mais je te demanderai quand même de te reporter au livre qui a été publié aux éditions sociales. Qui s'appelle, je vais citer ma biographie.
Il y en a deux, il y en a un sur le mode de production.
Un sur le mode de production asiatique, un sur les sociétés précapitalistes, avec une très importante préface de Godelier. Et je crois que là, tu trouveras tout de même. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, je ne peux pas entrer dans une discussion de détail là-dessus. Hein, mais je crois que tu trouveras tout de même un certain nombre d'arguments probants, et qui sont d'ailleurs puisés très souvent chez Marx. Hein. Qui sont puisés à la fois chez Marx, dans des textes qui n'avaient pas été connus jusqu'à présent, puisqu'ils émanent pour la plupart des fondements, de la critique des fondements de l'économie politique, qui a été traduit en français très récemment, aux éditions Anthropos, et d'un certain nombre d'articles de journaux que Marx avait écrits, parce que Marx a eu une très grande activité de journaliste pour les journaux américains, où il a étudié par exemple les problèmes de l'Inde, parce que j'ai oublié de citer l'Inde. Dans le mode de production asiatique. Alors tu dis de l'esclavage. C'est vrai que l'esclavage a pu s'y mêler, mais l'essentiel n'est pas là. Parce que on peut trouver dans une formation sociale, et ça je crois l'avoir dit, plusieurs modes de production coexistants. Mais l'essentiel est de savoir quel est le mode de production fondamental, quel est le mode de production principal. Alors là, je vais, si tu veux, là, je n'ai pas beaucoup lu de citations, hein, te donner une définition du mode de production asiatique. C'est un mode de production qui unit l'économie autarcique des communautés villageoises, où s'associent agriculture et artisanat, dans une division du travail limitée et stable, qui unit à cela le rôle dirigeant de l'État, fondée surtout sur les grands travaux hydrauliques nécessaires à l'irrigation. Alors, en effet, on peut citer Égypte, Madagascar, Mésopotamie, Inde, Chine, Vietnam, Corée. En Égypte, par exemple, et à Sumer, c'était présent dès le troisième millénaire, puisque tu demandais des dates, dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et ça s'est poursuivi. La féodalité en Égypte, on en discute encore, et la féodalité est apparue, mais très tard. Ça s'est poursuivi pendant des millénaires. C'est-à-dire, c'est un des modes de production les plus stables qu'on ait trouvé. Et pas d'ailleurs seulement stagnant, parce qu'il est stagnant, mais on y voit tout de même un certain développement. Exemple, en Chine, il y a eu un développement important, en Égypte aussi, un développement important de forces productives, mais toujours cadrées par ce type de mode de production, c'est-à-dire par la direction de l'État, direction absolue de l'État sur l'ensemble. Alors, tu poses à propos de l'URSS une question très, très pertinente. C'est vrai qu'on ne peut pas, et je l'ai abordé en 5 minutes, on peut me le reprocher à la fin de l'exposé, mais je crois qu'on ne pouvait pas ne pas aborder le problème quand on parle des modes de production. Si on continue cette activité de centre, je crois qu'il faudrait passer à un stade supérieur, nous aussi. Et l'an prochain, cette année c'est un peu tard, c'est engagé comme ça, mais l'an prochain, bien sûr, avoir des cycles de formation, je crois que c'est toujours nécessaire, mais avoir en plus des séminaires de travail. Et on pourrait consacrer, par exemple, au stalinisme, au problème du stalinisme. Parce que moi, je mets tout de même un signe d'égalité, si tu veux, entre mode de production actuel en URSS et stalinisme. On pourra protester, mais enfin, on en discutera. On pourra consacrer au stalinisme un séminaire, hein, au mode de production asiatique un séminaire. Hein. C'est-à-dire un certain nombre de groupes de camarades qui travaillent spécialement sur une question. Et puis qui rendent compte ensuite de leurs travaux. Je crois qu'on devrait arriver à ce stade-là maintenant, ben aussitôt, aussi vite que possible. Mais pour te répondre tout de même très rapidement, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'a pas encore analysé à fond le mode de production spécifique soviétique étendu aux pays de l'Est, parce que c'est le même. On ne l'a pas analysé à fond, mais il y a tout de même un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre de travaux qui ont été faits à ce sujet. Alors, les hypothèses, on peut les résumer en quelques-unes. Ne parlons pas de l'hypothèse orthodoxe, c'est le socialisme, avec quelques petites erreurs. Fautes, crimes. Quelquefois. Mais là, on ne va pas se placer à ce genre de point de vue. Il s'agit d'examiner un mode de production. Ne parlons donc pas de cette hypothèse orthodoxe, on pourra la reprendre dans un séminaire et l'étudier. Autre hypothèse, l'hypothèse de la quatrième internationale. État ouvrier dégénéré. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un État qui conserve dans sa structure les rapports de production socialiste, un État ouvrier par conséquent, mais qui a dégénéré par la tête. C'est-à-dire que c'est un problème uniquement superstructurel qui se poserait, un problème politique, un problème d'État, un problème de direction de parti, de direction d'État. Un problème purement politique. Autre hypothèse, celle d'un capitalisme particulier, capitalisme dit d'État, pas tellement satisfaisante non plus, parce que pourquoi employer dans ce cas le terme de capitalisme s'il ne s'agit plus de propriété privée des moyens de production, ce qui caractérise dans l'analyse marxiste le système capitaliste. Mais la notion de capitalisme d'État a tout de même été employée par Lénine. Lorsque les soviets ont pris le pouvoir, il a dit « Nous allons passer par une phase de capitalisme monopoleur d'État. » C'est-à-dire que l'État contrôle l'ensemble des entreprises, et il y avait encore des entreprises capitalistes. Mais il a le monopole. Ça, il y a le monopole, somme, du contrôle, du développement industriel. Et par exemple, pendant la NEP, où on a encouragé de nouveau un certain essor de l'industrie privée et du commerce privé, le capitalisme restait sous le contrôle étroit de l'État. Capitalisme monopoleur d'État. Boukharine a même, à propos de l'URSS, enfin, à un autre propos, émis l'hypothèse que le capitalisme, alors ça nous intéresse directement en ce qui concerne l'issue d'un mode de production, que le capitalisme pouvait arriver à une phase de capitalisme d'État, c'est-à-dire de capitalisme, disait-il, organisé sous la direction d'un trust, enfin en un seul trust géant, qui aurait tout de même à l'intérieur des antagonismes de classe, mais qui serait capable de contenir ces antagonismes de classe. Ce qu'il appelle le capitalisme d'État. Ilferding, qui est un théoricien social-démocrate, a parlé à propos de l'URSS de capitalisme, non pas de capitalisme, mais d'économie totalitaire d'État. Pierre Navin, notre camarade, a parlé de socialisme d'État, fondé sur une exploitation mutuelle. Castoriadis reprenant les articles de Socialisme Avari, enfin quand ils viennent d'être publiés, les articles en édition 10-18, le groupe Socialisme Avari a fait tout un travail intéressant et parlait d'un capitalisme bureaucratique d'État. Pas simplement capitalisme d'État, mais capitalisme bureaucratique d'État. Et selon lui, d'ailleurs, c'est une formule qui s'applique à l'URSS, mais qui peut aussi se développer et s'appliquer finalement à l'évolution même du capitalisme en général. On irait vers un capitalisme bureaucratique d'État. Bon, voilà un certain nombre d'hypothèses. Comment peut-on trancher? On ne va pas trancher ce soir. Mais le nombre même de ces hypothèses prouve que le problème est extrêmement difficile, complexe. Le fait est qu'on se trouve en présence d'un mode de production neuf, sur lequel on ne s'attendait pas du tout à déboucher, avec le passage, avec la révolution soviétique, avec la révolution prolétarienne, mais qu'il faut étudier de façon plus précise. Il y a eu dernièrement un livre de David Rousset, le titre m'échappe en ce moment, La société éclatée, qui est aussi une analyse extrêmement intéressante du phénomène soviétique, où il reprend lui aussi l'idée d'un capitalisme d'État, mais où il va plus loin. Il reprend l'idée de certains opposants soviétiques de l'époque révolutionnaire, où ils expliquaient le mécanisme, enfin ce qui s'était passé en URSS, par une division des tâches, une division du travail en quelque sorte, au sein de la classe ouvrière, une partie de la classe ouvrière se séparant de l'ensemble de la classe pour accéder à des postes d'État, dans l'appareil d'État, et cette séparation finalement a fait que l'État n'a plus du tout représenté la classe ouvrière elle-même. Une séparation du travail, une division du travail, et création d'une nouvelle classe. Alors on en arrive ici, évidemment, au problème, est-ce qu'il y a ou non une nouvelle classe dirigeante? Alors, parler de bureaucratie d'État, si on étend ce concept, parce que la bureaucratie ne peut pas être limitée dans un pays comme l'URSS, aussi vaste, on en arrive assez vite à l'idée d'une classe dirigeante, disons d'une couche dirigeante. Enfin, la terminologie ici, c'est pas ce qui est tellement important, c'est de savoir si on a affaire à la direction de la classe ouvrière elle-même ou à la direction d'un certain nombre de gens, fussent-ils des anciens membres de la classe ouvrière qui se sont séparés de cette classe et qui en définitive ont établi un pouvoir au-dessus de la classe elle-même, dominant la classe elle-même. Alors tu dis, mais alors est-ce qu'on est dans le même camp ou non? Bien entendu, contre l'impérialisme, qui est le danger principal, on est dans le même camp. Mais si tu veux aller plus loin et dire qu'on est dans le même camp au point de vue politique, fondamentalement, non, c'est une autre société que nous visons. C'est une autre finalité que nous visons. Hein? Ah, donc c'est pas l'ennemi, hein? C'est pas l'ennemi, mais ce n'est pas non plus le projet. Hein? Le projet qui est le nôtre, ce n'est pas non plus le programme qui est le nôtre. Hein? Le programme de société qui est le nôtre.